Qu'est-ce qui est présent maintenant? C'est quoi la rêve? Sacramentum maîtresse. C'est quoi la présence réelle? Vous allez me dire, dans l'Eucharistie, la présence réelle, vous voyez bien ce que c'est. Mais dans l'absolution, Jésus est présent réellement. Je veux bien, mais quoi exactement? C'est pas la même présence réelle, vous l'admettrez. C'est pas tout à fait la même présence réelle. C'est pas le même sacramentum maîtresse. Alors, c'est pas le même sacramentum maîtresse. La présence du Christ. Non, ça c'est le sacrement du sacerdoce. Moi je parle du sacrement de pénitence. Le prêtre en Jésus, c'est le sacrement de l'ordre, c'est pas le sacrement de pénitence. Hein? Dans le sacrement de pénitence que je reçois, et auquel je communie, que je reçois à signe de croix, c'est pas une présence réelle. Le signe de croix, c'est pas une présence réelle, c'est un geste liturgique que vous faites. Non, ça c'est, non, c'est ce qui accompagne la présence réelle. Non, non, alors donc je vous dis un petit peu. D'abord, il y a la présence, bien sûr, de Jésus et la blessure du cœur de Jésus. Puisque c'est de la blessure du cœur de Jésus que sort tous les sacrements, comme dit saint Augustin. Et donc lorsque vous recevez l'absolution, Jésus s'empare de vous, présence réelle, la blessure du cœur de Jésus s'empare de vous, et vous pouvez dire sous le souffle du Verbe de Dieu qui s'empare de vous, je suis la porte du ciel. Je suis la porte. La croix de Jésus est là, dans un corps de chair. C'est pour ça que Jésus a dit « Je suis la porte ». Vous voyez, la porte c'est un bois, et c'est la croix de Jésus qui a ouvert une porte dans le ciel. C'est la cœur de Jésus qui ouvre la porte du ciel. Je suis la porte. Cette présence de Jésus, Verbe de Dieu, porte du ciel, dans le corps ouvert de Jésus, qui est là. Et votre corps lui-même devient cette ouverture. Il y a la deuxième présence, qui est une présence d'amour. C'est les vertus. Ça fait naître en vous, qui est un cœur vivant, parce que le corps de Jésus est mort, tandis que dans le sacrement, il redevient vivant, le cœur ouvert de Jésus redevient vivant en vous, pour faire émaner le pardon de Jésus en vous, la miséricorde du Fils en vous, et l'amour du Père en vous. Dans toutes les qualités, je vais dire, divines de l'amour glorieux du cœur de Jésus sont présents en vous. L'amour du Père dans un corps absous, dans un cœur absous, la miséricorde du Fils et le pardon, le don parfait du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est ces trois personnes qui se livrent, qui donnent totalement tout ce qu'ils sont. Pardon, miséricorde, amour, venant de Dieu. Troisième présence. Troisième présence, c'est la confession du Christ. C'est que vous vous êtes confessé, ça c'est le pain et le vin, c'est votre petite matière à vous. Vous avez confessé vos petits péchés, péché, c'est pas grand-chose, finalement. Vous les avez donnés à Jésus. Jésus, prêtre éternel, a pris, et il les a transformés. Il a transformé la confession de vos péchés. C'est, oui, dans l'Eucharistie, c'est le pain et le vin qui sont transsubstantiés en corps et sang du Christ. Eh bien, ici, par l'absolution, qu'est-ce qui se passe? C'est votre confession à vous qui est transformée en confession du Christ. Le Christ confesse devant le Père ce qu'il est. Il confesse tous les péchés du monde. Au départ, il y a votre confession, et avec l'absolution, il y a la présence réelle de Jésus qui demande pardon avec un amour infini, une miséricorde infinie et un pardon infini à Dieu le Père pour tous les péchés du monde à travers votre cœur au moment où vous êtes absous. Présence réelle. C'est d'ailleurs pour ça que ça obtiendra le pardon à tous ceux qui ne se confessent pas. S'ils sont capables de le recevoir, bien sûr. Évidemment. C'est uniquement pour les hommes de bonne volonté, ça. Donc, votre confession est changée en présence réelle de la confession de Jésus sur la croix, qui donne pardon au Père, confessant tous les péchés, tous les pécheurs, de tous ceux qui sont en train de pécher en ce moment, du monde entier. Vous savez bien sûr, comme c'est le prêtre, le fait que ce soit avec le prêtre que vous demandiez pardon, c'est encore aussi le fait que vous soyez deux à demander pardon. Et qu'il y ait en plus cette présence réelle dont je viens de vous parler, avec on est trois, fait que c'est la confession de l'Église tout entière. Donc pas seulement la confession de Christ sur la croix, mais ça devient la confession de l'Église tout entière, du corps mystique total, du corps mystique de l'Église militante tout entière. Qui demande pardon avec le Christ et en présence du Christ. Il y a vraiment la présence de toute l'Église, la présence réelle, qui demande pardon à vous, au Père, pour tous les péchés du monde. Vous avez encore une autre présence réelle. C'est évidemment, vous vous en doutez, le pardon des péchés du monde, de tous ceux qui ont désir d'être pardonnés, en le sachant ou sans le savoir. Parce qu'il y a des gens qui ont le désir d'être pardonnés en le sachant, et il y a d'autres qui ont le désir d'être pardonnés sans le savoir. C'est un désir très profond, mais il est caché à leurs propres yeux parce que ils sont trop superficiels, comment dire, je sais pas comment dire, ils sont trop blessés, donc ils vivent trop à un niveau, ils sont trop blessés psychologiquement, alors ils n'arrivent pas à percevoir leur soif spirituelle d'être pardonnés, mais leur liberté de désir du pardon spirituel est toujours là dans leur cœur. Et il y en a d'autres qui ne perçoivent pas et qui n'ont pas le désir d'être pardonnés. C'est pour ça que personne d'entre nous ne peut le savoir. Mais en tout cas, tous ceux qui ont le désir d'être pardonnés ont leur péché dissous. Ça, c'est la présence, c'est en présence de la dissolution du péché chez tous les hommes de bonne volonté dans l'instant où vous êtes, où vous le faites. Et si vous faites pénitence, alors vous savez. Un phénomène, je ne sais pas quoi, si vous faites pénitence, voilà. Moi, la pénitence, c'est présence, vous avez la présence réelle de tout ça. C'est tout le sang de Jésus, pas une seule goutte ne manquant, qui est présent en vous, qui demande pardon pour tous les péchés du monde, dans tous les péchés du monde, et dans tous les lieux où le péché se commet. Et donc, c'est dans cet instant où vous le faites, vous repoussez en enfer, Lucifer. Et vous en êtes parfaitement conscient. Mais lui, c'est comme un élastique, hein, il revient très vite. Mais au moins, à force, il est fatigué. Hein. Mais un élastique, ça s'use. Hein. Et donc, ça c'est les présences réelles, vous voyez, sacramentum et très. Ah, ah. Voilà. Et alors, le fruit, alors, faire passer, une fois qu'on a cette présence, ah, on est attentif à cette présence, on y communie à cette présence, bien sûr. On vit cette présence quand on la reçoit. Et puis après, on lui donne, on essaie de lui donner son fruit. On passe de la res, le sacramentum et res, à la res et sacramentum. Ça, je crois, maintenant, ça commence à venir, n'est-ce pas? On passait du berlingot non percé au berlingot percé qui est vite maintenant. Voilà. Et bien, dedans, vous savez, qu'est-ce qu'il y a? Cette présence réelle que je viens de vous expliquer, vous savez qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est le petit emballage, ça. C'est tout. C'est déjà pas mal. Non, mais le Seigneur, il nous a fait un joli cadeau comme emballage. Ce qu'il y a dedans, c'est encore mieux. C'est l'absolution, c'est un signe. Ce pardon, c'est un signe efficace. C'est qui l'absolution en personne? C'est l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, c'est l'absolution en personne. Elle est créée, l'Immaculée Conception. Elle a été sauvée par le Christ à l'instant où Dieu l'a fait exister. C'est l'absolution en personne. Vous savez, l'Eucharistie, c'est le Verbe incarné en personne. La présence réelle, personnelle, qu'on trouve dans sa commande pénitence pour qu'elle soit corporellement et spirituellement et vitalement, etc., en nous, c'est l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception en personne, l'Immaculée Conception, l'absolution incarnée, c'est Marie. C'est l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, c'est Jésus qui donne son absolution au monde entier. Quand Dieu crée l'Immaculée Conception, à partir de son cœur sacerdotal, qu'il est mort, le Père, le Fils, le Saint-Esprit créent à partir de là l'Immaculée Conception et donne absolution au monde entier, et puis mettent l'Immaculée Conception dans la première cellule qui émane de l'unité sponsale de Anne et Joachim. Dans une conception sponsale immaculée entre deux, et fait jaillir l'existence de Marie, qui est l'incarnation de cette présence réelle que je viens de vous dire, en personne. C'est son incarnation, c'est l'incarnation de ça, c'est Marie. Marie, c'est l'Immaculée Conception. Et c'est l'Immaculée Conception, pas pour elle toute seule, évidemment. L'Immaculée Conception, c'est le pardon pour tous les chrétiens. C'est pour ça que Marie est pour nous, l'Immaculée Conception est pour nous. Et on reçoit réellement, personnellement, intégralement, totalement, dans le fruit du sacrement de l'absolution. L'Eucharistie permet de recevoir le Christ en sa plénitude de réalité vivante. Le sacrement de la confession me permet de recevoir Marie en personne dans sa plénitude de fécondité vivante. Qui est évident. Il y a des choses qu'on ne pouvait évidemment peut-être pas dire avant 1858. L'Église a proclamé le dogme de l'Immaculée Conception seulement il y a peu de temps, quoi. Et le premier à avoir développé ce dogme, c'est le père Maximilien Marie Kolb. Donc avant Auschwitz, on ne pouvait pas en parler finalement. Et le premier pape à avoir complètement intégré la doctrine mariale de l'Immaculée Conception du père Kolb, c'est Jean-Paul II. Donc on ne pouvait pas en parler avant l'avènement de Jean-Paul II de tout ça. Prouve que l'Église avance. Pousse, Marcel. On y va. Ça marche. me permet de vivre de l'espérance. Hein? Et je crois que c'est important. Alors, elle est présente et elle confesse. Elle confesse en moi, elle est l'Immaculée Conception. Et je peux dire avec elle, je suis l'Immaculée Conception. C'est extraordinaire pendant la pénitence. Je suis l'Immaculée Conception. C'est vrai, je suis l'Immaculée Conception. Et vous reprenez l'Apocalypse à ce moment-là, et vous voyez la mère de cristal face au trône. Vous voyez la femme face au dragon. Vous voyez la messagère face à l'heure de l'absolution de toute, de tout ce qui est mal. Vous voyez la coupe face au péché. Vous voyez la Jérusalem face au monde. C'est les cinq manières dont Marie confesse ce qu'elle est. Elle est l'Immaculée Conception, l'absolution. Elle le confesse devant le trône, c'est-à-dire devant le Père. Elle confesse qu'elle est sans péché, qu'elle est immaculée dans sa... Elle est immaculée. C'est la mère de cristal qui confesse qu'il n'y a aucune tache en elle. Et dans tous ceux en qui elle est, grâce à l'Église. C'est la mère de cristal remplie de feu face au trône, c'est-à-dire face au Père. Face au Père, elle confesse au Père éternel au ciel. Il n'y a plus de péché. Elle confesse face au dragon rouge ce qu'elle est. C'est la femme. C'est la femme de l'Apocalypse qui se dresse dans son adoration et dans sa contemplation. Et elle confesse au dragon qu'il est perdu. Elle confesse au diable que c'est fini pour lui. Elle est la messagère face à l'heure qu'elle confesse à tous les temps que c'est maintenant l'heure de sortir du péché définitivement. Elle confesse comme coupe du pardon. Elle est l'Immaculée Conception, donc elle a le pardon du Christ en elle. C'est la coupe, tout le sang du Christ qui pardonne, qui lave, qui immaculise tout. Eh bien, c'est face à tous les péchés du monde, elle confesse que tous les péchés sont pardonnés. Elle confesse ce qu'elle est, elle est le pardon de tous les péchés. C'est la coupe. C'est pour ça, dès que tu vois un péché en toi, vite embrasse Marie. Elle confesse que c'est fini. C'est pour ça qu'elle dit à Fatima quelque chose de très sympathique, dit... Quiconque embrassera mon cœur immaculé, vous savez, elle se fait un petit cœur immaculé dans la statue, sera sauvé. Dès que tu sens que tu as un péché, tu confesses que tu viens embrasser le cœur immaculé, c'est une, un signe, hein, c'est une manière, c'est pas une absolution d'aller embrasser une statue. Attention, c'est pas un sacrement, oui. C'est pour montrer ce que c'est que le passage du sacramentum maîtresse au reste du sacramentum du sacrement. Ah ouais, oh. Faut pas faire mystico dingo, ouais. C'est le sacrement que je parle, moi. Que Marie parle quand elle dit ça. Quand Marie fait des apparitions, elle explique l'Église. Elle explique l'Évangile. Elle explique les sacrements. Elle explique rien d'autre. Donc si tu l'interprètes autrement, exit. Oh, si. Ah oui. Et face à Jérusalem céleste, c'est face au monde entier, c'est la Jérusalem. Elle descend et elle manifeste que le monde entier est sans péché, se trouve sans péché éternellement au ciel. Face au monde, elle confesse ce qu'elle est, c'est le monde entier du ciel. Elle est la Jérusalem céleste. Le monde entier se retrouve, grâce à elle, sans péché au ciel. Donc elle confesse au monde que c'est fini pour lui. Il n'a aucun avenir. En tant que monde tout court, il n'y a plus rien. Séparé d'elle. Elle confesse qu'elle est le seul avenir du monde. Elle confesse qu'elle est. C'est l'Apocalypse qui montre ça. Et quand j'ai reçu l'absolution, Marie, je peux laisser Marie proclamer face au Père, face au dragon, face à chaque péché du monde, face à l'heure dans laquelle nous trouvons, face au monde entier. Ces cinq proclamations fécondes et efficaces. Et il est très important que je fasse cela avec elle parce qu'elle ne peut pas le faire sans l'Église, sans moi, sans nous. Donc c'est très important de le savoir, de le comprendre. Alors le fruit après pour moi, quand je repars dans ma bagnole, me mets devant la télé, que je prends du chocolat, du bon chocolat colère, ou comment ça s'appelle, le suisse, bon chocolat suisse. Ah, oui. Bon, ben, vous savez que ce sont les fruits, une haine du péché en nous, incroyable. Si je suis passé par toutes ces étapes, hein, alors j'ai une haine du péché. Bien sûr, j'ai le pardon de tous mes péchés personnels de toute ma vie. J'ai une guérison de toutes les sources de mes péchés, une force contre eux. J'ai une union, une crise, une transformation vraiment de tous mes plis intérieurs. J'ai une augmentation de la grâce sanctifiante. Je deviens miséricordieux vis-à-vis de tous les pécheurs, je ne les juge plus. Et j'ai une joie indéracinable. Peut-être aurons-nous le temps demain, parce que là c'est fini, de regarder le sacerdoce royal, qui est le sixième aspect également, le passage donc du sacrement du prêtre. Le prêtre, vous le voyez, il est là. C'est le sacrement de l'ordre, il y a présence réelle de Jésus, prêtre éternel, rempli de gloire, face au Père, suppliant, complétant toutes les prières de tous ceux qui sont sur la terre. On fait une petite prière, nous. Seigneur, Seigneur. Et lui, il prend cette prière, il la complète avec l'infini de sa perfection amoureuse devant le Père. C'est ça, Jésus prêtre éternel. Présence réelle de Jésus prêtre éternel. Ça, c'est normal, présence réelle de Jésus prêtre éternel. Dès que vous voyez un prêtre, présence réelle de Jésus prêtre éternel. Dès que vous voyez un prêtre qui est en train d'être prêtre, c'est pas parce qu'il est ordonné, hein. C'est qu'il est en train d'exercer, d'actuer son sacerdoce. Alors, c'est ce que disait le curé d'Ars. Dès que le prêtre monte à l'autel, c'est Dieu qui monte à l'autel. C'est plus un prêtre. Mais si le prêtre, il est là, il rentre dans sa bagnole, il se prend son chewing-gum, il se prend sa clope et tout, c'est pas la présence réelle de Jésus prêtre éternel. À ce moment-là, non. Pour qu'il y ait présence réelle de Jésus prêtre éternel, il faut que le prêtre soit dans un exercice sacerdotal. Donc, par exemple, il enseigne au nom de l'Église, présence réelle de Jésus prêtre éternel. Il donne un sacrement ou une bénédiction, présence réelle de Jésus prêtre éternel, pouvoir d'enseignement, pouvoir munus docendi, munus sanctificandi. Il est source d'un sacrement en ce moment. Et monus sanctificandi, il vous demande de faire quelque chose au nom du Christ. C'est votre père spirituel. Quand c'est un prêtre qui vous demande de faire quelque chose au nom du Christ, il y a Jésus prêtre éternel qui est présent. On doit obéir au prêtre. Alors évidemment, si un prêtre dit exactement le contraire de ce que dit l'autre, eh bien, c'est une miséricorde de Dieu. C'est une très grande miséricorde de Dieu, parce que si je fais ce que dit là, j'obéis à Jésus, prêtre éternel. Si je fais ce que dit l'autre, j'obéis aussi à prêtre éternel, Jésus. Donc j'ai le choix. C'est une miséricorde incroyable. Pardon ? Mais si c'est opposé, oui, vous pouvez faire ça ou l'opposé, s'il n'y a pas de péché. Parce que si vous demandez de faire un péché, ah ça vous êtes sûr. Vous êtes sûr que ça ne vient pas de Jésus, prêtre éternel, hein ? Mais si un prêtre vous dit, écoutez, mon père, je ne sais vraiment pas, parce que je vous demande des conseils, je viens vous voir parce que vraiment je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez que l'Église et Jésus me demandent ? Est-ce que vraiment je ne sais pas, est-ce que je dois me marier avec cette jeune fille ou... 40 ans de plus que moi. Où est-ce que je dois rentrer au séminaire? Alors, le prêtre dit, mais enfin bon, t'as vu, elle a un gros magot quand même, elle va clamser dans 10 ans. C'est pas mauvais, je veux dire. Et puis après, tu pourras être prêtre après, tu donneras tout pour les pauvres. J'ai justement une œuvre formidable que j'ai besoin. Non, oui, marie-toi avec elle, je crois que ça lui fera plaisir en plus, c'est charitable. Et puis tu vas voir un autre. Dis, mon père, voilà, je voudrais vraiment me. Mais enfin, bien sûr, rentre au séminaire immédiatement. Ben, si tu obéis à l'un, il n'y a pas de péché. Dans aucun des cas, il n'y a pas de péché. Tu obéis à Jésus, prêtre éternel. Mais le fait que deux disent une chose opposée, c'est bon, le péché. C'est très bon, parce que c'est ce qu'on appelle une miséricorde du Seigneur. Lorsque deux autorités se multiplient, lorsqu'on multiplie les autorités, c'est pour ça que dans un monastère, on met un père abbé, on met un prieur, on met un sous-prieur. Pour qu'il y ait toujours. Et puis on met un confesseur aussi. Extraordinaire. Il y a toujours quatre autorités. Sacerdotal. Hein? Tu obéis? Si vraiment tu veux obéir à aucun des quatre, c'est que là il y a un problème. C'est vrai, Munus Docendi, il y a trois charges sacerdotales, le pouvoir d'enseignement, le pouvoir de sanctification et le pouvoir de gouvernement. Donc, pouvoir d'enseignement, il enseigne la doctrine infaillible de l'Église. Quand il enseigne la doctrine de l'Église, sans rajouter ses opinions, hein, s'il raconte ses opinions, c'est plus Jésus prêtre éternel qui est présent. S'il dit la doctrine du Saint-Père, c'est pas pareil. Vous voyez ? Même s'il se trompe un peu, s'il a l'intention vraiment de dire ce que dit le Saint-Père, ouais, il ne sait pas parler, il bégaye, il dit, ben voilà, bon, écoutez, je vous ai fait la conférence, voilà, ça fait 2 heures que je parle, bon, c'était la première partie, personne n'a rien compris, bafouillé, le micro ne marchait pas, j'étais sourd, j'ai rien entendu, et puis c'était brouillon, c'était... Et puis, c'était une manière, puis il s'arrêtait, puis il prenait, enfin, vraiment, c'était... Il avait une bonne intention, un bref type. Bon, première partie, c'est terminé, maintenant je vais passer à la deuxième partie. Bon, voilà, il faut quand même être en église et tout ça, bon, et puis, vraiment vivre en église, quoi, ça, ouais, et puis, puis je crois que c'est très, très important de se remettre en question, quoi, parce que, bon, voilà, non, mais ça, oui, ça, c'est la foi, quoi, c'est ça, c'est questionnement, quoi, vraiment, quoi. Et puis, partage du vécu, vous voyez, c'est ça. C'est, 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 Alors, ça recommence,
la bibine, tout ça.
Mais il a l'intention de dire ce que tu veux dire. Oui. C'est beau. Et vous, vous avez capté ça. Tiens, vas-y, c'est la fin de la première partie. Maintenant, c'est la deuxième partie. Mais oui, prêtre éternel, c'est la première partie de ma vie. C'est foutu. C'est terminé. Maintenant, c'est la deuxième partie, c'est le monde nouveau. Hein? Je reçois, vous voyez. À chaque fois qu'un prêtre enseigne avec intention d'enseigner ce que dit l'Église, nécessairement il y a une parole efficace du Christ prêtre éternel. Si je le reçois, hein, je bafouille, je zote. Il ne s'est pas lavé les dents. Il n'y a pas fait signe de croix avant de commencer le sermon. Ah. On n'est pas sympa vis-à-vis du Jésus prêtre éternel, hein. Bon, quand il donne un sacrement, il est en train de faire un sacrement, célébrer une messe, présider un office, il est dans le confessionnal, etc., etc. Il est, et vous voyez, Jésus prêtre éternel, il ne faut pas lui dire, ah Francis, ça va. Non, il faut dire, mon père. Francis, tu veux me confesser? Non, non, si tu lui demandes la confession, c'est mon père. C'est pas Francis qui te confessera, c'est le père. C'est Dieu. Tu y crois ou tu y crois pas? Si tu y crois pas, tu l'appelles Francis. À ce moment-là, ne va pas te confesser à ce mec-là. Prends un psychanalyste, c'est mieux. C'est mieux, c'est plus juste. Ah, mais c'est lui qui croit pas, il me dit pas. M'en fous. Il y croit pas, mais moi je crois au prêtre. Je crois à l'Église catholique. Quand je vois Jésus Eucharistie, je dis pas. Et quand je remunis Palis du précieux sang, je dis pas, je vais enfin prendre du bon Bordeaux. Hein. Non. Maria m'a donné du Porto, mais ça avant la messe, et au moment de communier au précieux sang, je dis pas, oh, maintenant c'est le bon moment de prendre du Porto. Non. Vous voyez, et bien, quand je vois un prêtre et que j'y ai pour me confesser, je ne dis pas, salut Francis, est-ce que tu peux me confesser? Non. Enfin, Marthe, elle était terrible là-dessus. Terrible. De moi-même, je ne vous aurais pas dit ce petit couplet, parce que, mais je peux vous dire que Marthe, hein, il est hors de question, disait-elle, que dans un foyer de charité, on s'adresse à un prêtre sans lui dire mon père. C'est hors de question. Hein, c'est beau ça, je trouve. Et il y a donc le pouvoir sanctification, c'est les sacrements. Et le pouvoir de gouvernement, c'est quand on va voir un prêtre pour lui demander un conseil. On pour lui demander un conseil, il ne faut pas trop l'embêter. Hein.